Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. J'ai voulu voir la différence et il y a une différence entre masque et pas masque.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Malgré l'alerte maximale, les restaurants vont pouvoir rester ouverts sans restriction d'horaire à Paris comme à Marseille, en contrepartie d'un protocole sanitaire renforcé. Ce n'est qu'un soulagement partiel pour un secteur fragilisé. État des lieux avec Marie Viennot. Après les crues meurtrières de vendredi, les recherches se poursuivent dans l'arrière-pays niçois et la solidarité s'organise pour aider les sinistrés. Les habitants de Saint-Martin-Vésubie évacuent la commune privée d'eau et d'électricité. Reportage de Farida Noir. Plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés libérés au Mali, ce serait dans le cadre des négociations pour obtenir la libération de deux otages, dont l'humanitaire Sophie Pétronin. Explication de Nathanaël Charbonnier. Les combats au Haut-Karabakh compromettent des relations naissantes entre Israël et l'Arménie. L'État hébreu fournit beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan et n'a pas envie de renoncer à ses relations commerciales avec Bakou. Analyse de Frédéric Mettezo. Placés en alerte maximale, Paris et les villes de la Petite Couronne doivent se soumettre à de nouvelles restrictions à partir de demain. Pendant deux semaines, les congrès seront interdits, les bars fermés et les restaurants soumis à des règles sanitaires encore plus strictes. Ce sont des mesures de freinage, explique le préfet de Paris, car l'épidémie va trop vite. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Si les restaurants échappent à la fermeture, ces nouvelles mesures viennent tout de même peser sur un secteur déjà très éprouvé depuis le confinement, Marie.
Oui, car le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est déjà l'un des plus sinistrés du pays pour toute la France et hôtels compris. L'INSEE avait estimé qu'au deuxième trimestre, la perte d'activité avait été de 53% et pour le troisième trimestre, elle estimait qu'on serait à moins 22% avant ces nouvelles mesures de restriction. Pour ce secteur, elle concerne donc Paris et la Petite Couronne, c'est-à-dire aussi les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et au sein de ce secteur, ce sont tous les établissements qui n'ont pas de cuisine, de cuistot, pas de carte, pas de plat chaud. Selon l'UMI, l'Union des métiers des industries hôtelières, cela concerne donc aussi tous les cafés qui proposent seulement sandwich, œufs durs et viennoiseries à partir du moment où ils proposent également des boissons alcoolisées. 2000 établissements vont donc être fermés, calcule l'UMI, qui se dit dans un communiqué à la fois soulagé et en colère. Soulagé que pour les 36 000 restaurants, brasseries de Paris et Petite Couronne qui restent ouverts, il ne faille pas 1,50 m de distance, mais 1 m comme avant entre les tables. En colère qu'on établisse cette distinction entre bars et restaurants. C'est Les fermetures administratives seront donc assorties d'aides plus importantes. Il sera possible de toucher jusqu'à 10 000 euros du fonds de secours. 10 000 euros, est-ce que cela compense deux semaines de chiffre d'affaires? Bien, cela dépend bien sûr de la taille des bars et cafés concernés. Est-ce que cela permet d'éviter la fermeture? L'UMI pense que c'est de plus en plus tendu, car si le chômage partiel vient alléger les dépenses fixes pour les salaires, les loyers, eux, restent dus.
Marie Viennot, le protocole d'alerte maximale s'applique à Marseille, hein, où les restaurants ont pu rouvrir après une semaine de fermeture imposée et la ville envisage de se doter de son propre conseil scientifique. C'est une idée de Samia Ghali, deuxième adjointe à la ville. Cela permettrait, selon elle, de ne plus dépendre de certains scientifiques parisiens et de faire des propositions plutôt que de laisser faire l'État. Le président Les Républicains de la région, Renaud Muselier, y voit plutôt un facteur de confusion, rappelant qu'il existe déjà, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, 10 instances compétentes en matière sanitaire. Limiter le nombre de gens que l'on voit et respecter les gestes barrières restent les mesures les plus efficaces contre la propagation de l'épidémie, rappelle le directeur général de l'ARS d'Île-de-France. Le port du masque est plus recommandé que jamais, même s'il pose parfois problème. Depuis un arrêté du 18 septembre, il est obligatoire dans les crèches pour les professionnels de la petite enfance, même en présence des enfants. Et certains parents et professionnels s'en inquiètent, redoutant l'effet de ces visages masqués sur le développement des tout-petits. À Ivry-sur-Seine, la crèche parentale Éveil Parents-Enfants compte 700 salariés pour une capacité de 18 berceaux et elle s'adapte bon gré mal gré aux évolutions du protocole sanitaire. Le reportage de Tara Schlegel.
Et ben là, vous mettez vos affaires dans le vestiaire et puis derrière, là, vous trouvez les blouses. Donc vous mettez une blouse et puis un masque.
Des masques en tissu africain que Maya, la coordinatrice, a elle-même cousu. Léna est l'une des éducatrices.
Au tout début, nous, bien sûr, on s'était dit « Oulala, ils nous connaissent sans masque, ils nous ont pas vus pendant plusieurs mois, quand on va les revoir, ils vont vouloir nous l'enlever ». Au final, pas du tout. On a été surprise, il n'y a pas eu de mots posés alors qu'on avait des grands en fin d'année qui avaient déjà 3 ans et donc ils auraient pu nous en parler. Après nous, bien sûr, on passe du sans masque à masque toute la journée. Donc ça a été dur au niveau de la respiration surtout, quand on veut chanter surtout. Par exemple, même des jeux de sons d'animaux où on veut par exemple rien que faire le poisson, on ne peut pas vraiment... Mais ils ne le voient pas. Donc pour reproduire, ça passe moins bien. Voilà, c'est juste ça qui est dommage.
Moi, personnellement, je suis un peu perdue.
Véro Manitra, elle aussi éducatrice, regrette le moment où, au début, elle pouvait tomber le masque quand elle était seule avec les petits.
Car c'était conseillé par les pédiatres que, avec les enfants, déjà, on a besoin de voir le visage pour l'interaction, pour l'émotion, mais aussi pour le langage. Donc voilà, ça nous convenait très bien au tout début. Et depuis peu, ça a encore changé. Donc actuellement, il faut porter le masque tout le temps. Ben, j'adore chanter, moi. Donc pour chanter, des fois, il faut que j'élève ma voix. Et même pour parler.
Heureusement, dans cette crèche, ajoute l'éducatrice, les enfants ont au moins un an. Ils ont donc déjà appris à imiter leurs parents et à babiller. Alors Caroline, qui a 23 ans, veut croire que ce n'est pas trop grave.
Moi, je pense que pour la majorité des enfants, on a la proximité physique, on peut les prendre dans nos bras, on peut être proche d'eux, expliquer les choses, prendre le temps. Mais pour certains enfants qui ont du mal à rentrer en contact, le regard, ça ne suffit pas. On se rend compte qu'on n'arrive pas, que nos voix ne les apaisent pas. Ou que nos chants ne les apaisent pas non plus parce qu'ils sont étouffés par ce masque en fait. Et c'est vrai que des fois c'est pas évident. Encore une fois, quand tout va bien, le masque c'est pas du tout une barrière, ça peut même être un jeu à certains moments.
Moi je pense que les effets on les verra plus tard.
Maya, la coordinatrice, elle fait le lien entre les parents et l'équipe éducative et observe les enfants d'un peu plus loin.
Pour le moment, dans la vie de tous les jours, moi j'ai l'impression que les enfants... Après pour nous, c'est pas le masque en soi qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on était une structure à gestion parentale où on avait les parents qui étaient tout le temps dans la crèche. Voilà, ils accompagnaient leur enfant, ils buvaient un café en salle avec les autres. À l'heure actuelle, le parent ne peut plus rentrer dans la crèche s'il passe pas par le sas de décontamination, le vestiaire, s'il se met pas une blouse, s'il se lave pas les mains à fond. Et en général, c'est que les parents de permanence. Les parents qui viennent le matin, ils déposent l'enfant maintenant à la porte comme dans toutes les autres crèches. Et donc pour nous, ça fait une vraie différence. Masque ou pas masque, je pense qu'on a réussi à détourner, mais ce rapport de convivialité, de coéducation, ça on l'a perdu, pour l'instant.
En tout cas ici, la consigne est observée à la lettre.
Tara Schlegel, dont vous pouvez lire l'article « Masque à la crèche, y a-t-il danger pour le développement des bébés ?» sur franceculture.fr. Le procès de Sid Ahmed Glam s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cet étudiant algérien est accusé d'avoir projeté un attentat contre une église de Villejuif en avril 2015 et d'y avoir tué une femme, ce qu'il conteste. Il affirme avoir renoncé à son projet d'attentat et avoir appelé les secours après s'être tiré volontairement une balle dans la jambe. Le compte-rendu d'audience d'Anne Fauquemberg.
Il est là, Sid Ahmed Glam, veste grise, masque chirurgical sur le nez, tout comme les autres accusés à sa gauche dans le box sécurisé. Un terroriste qui demande à interrompre l'audience à 14h pour aller aux toilettes et que la famille d'Aurélie Châtelain, partie civile dans ce procès, voit pour la seconde fois après la reconstitution de l'assassinat de la jeune fille en 2016. Michel Lerouge est le beau-père d'Aurélie Châtelain.
Il a un regard vide, hein, il essaie d'être absent, mais bon, il va falloir qu'il prouve ce qu'il a annoncé, quoi. Mais en hommage à Aurélie, on se doit d'être ici et d'assister au procès de Sid Ahmed Glam.
Pendant plusieurs heures, la présidente fait le récit de l'organisation de l'attaque terroriste, le soutien dont a bénéficié l'accusé après deux voyages en Turquie en 2014 puis en 2015, des voyages au cours desquels Sid Ahmed Glam affirme s'être fait ensorceler par le groupe État islamique. Puis elle s'arrête sur les fausses adresses e-mail, les faux comptes Skype et les pléthoriques échanges cryptés de ses commanditaires. Essaye de trouver une bonne église avec du monde, quand tu auras trouvé, fais-moi signe pour que je t'explique la suite. La suite, c'est donc cet attentat raté, la mort d'Aurélie Châtelain, pour lequel Glam accuse un mystérieux complice, et une intrication complexe de soutien logistique pour fournir armes et gilets pare-balles, toute une chaîne terroriste que la cour commence seulement à décrypter.
Le poste de contrôleur général des lieux de privation de liberté, vacant depuis juillet, va être occupé par la chroniqueuse judiciaire du Canard enchaîné, Dominique Simoneau. Elle a publié plusieurs livres sur la justice et avant de devenir journaliste, elle avait travaillé au sein de l'administration pénitentiaire comme éducatrice. Le projet de loi sur la réintroduction des néonicotinoïdes est examiné à l'Assemblée, une réintroduction temporaire pour préserver la filière betterave. Et au Palais Bourbon, Rosalie Lafarge, on assiste cet après-midi à une sorte d'affrontement écologie contre économie.
Ce projet de loi, c'est la fin des néonicotinoïdes, assure le rapporteur d'entrée de jeu sous les huées d'une partie de l'hémicycle. Le ton est donné, la gauche dénonce un rétropédalage. Ça n'est pas ça, insiste le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Cette loi, mesdames et messieurs les députés, elle n'est en rien un renoncement. C'est à la fois l'humilité de reconnaître quand nous sommes dans une impasse, et c'est le choix de faire la transition agroécologique avec la filière française et non au détriment de la filière française.
Face à l'urgence, on n'a pas le choix, abonde le groupe Les Républicains à travers son numéro 1 à l'Assemblée, Damien Abad.
La filière betterave est une filière importante économiquement d'un point de vue de l'agriculture et c'est pas en jetant au pilori comme cela une filière ou en la jetant en pâture qu'on va trouver des solutions. Donc oui, c'est nécessaire parce qu'on a besoin de ces dérogations pour travailler, pour proposer des solutions.
Mais à gauche, on refuse de considérer qu'il n'y avait justement pas d'autre solution que de réintroduire ces produits.
Plus qu'une erreur, c'est une faute qui va se commettre.
Le député chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
De combien sommes-nous capables d'encaisser en perte de production? Voilà la question à poser. Et que faisons-nous pour aider alors les salariés des sucreries et les travailleurs, les paysans qui cultivent ces betteraves? Voilà la question à se poser. C'est beaucoup plus simple de faire ça que de faire l'inverse, c'est-à-dire de répandre partout des produits qui nous empoisonnent et ensuite de réparer les conséquences désastreuses.
La droite pour, la gauche contre, mais c'est surtout dans la majorité que les votes seront scrutés. Plusieurs députés marcheurs, au moins trois, ont déjà fait part de leur opposition et ils s'attachent à faire passer le message au sein du groupe avant le vote solennel prévu demain.
Rosalie Lafarge, après le passage de la tempête Alex, les opérations de secours se poursuivent dans les Alpes-Maritimes, parfois difficilement puisque plusieurs communes sont toujours inaccessibles par la route. À Saint-Martin-Vésubie, l'une des communes les plus sinistrées, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Les habitants tentent donc de quitter le village par les airs ou la terre ferme. Le reportage de Farida Noir.
Deux places. Et vous voulez partir ensemble, je pense?
Ouais.
On va attendre un peu alors.
Quelques affaires dans un sac de voyage, c'est tout ce qu'ils ont droit d'emporter, rassemblés sur la place du village. Ceux qui attendent leur tour ne savent pas par quel moyen ils partiront.
Je sais pas. Si c'est l'hélico, le bus, je sais pas.
Ça fait combien de jours que vous essayez de partir?
Et depuis hier. Ah, je m'en vais.
Cet habitant partira en hélicoptère. Pour d'autres, ce sera par la route. Des convois partent régulièrement.
C'est sûr qu'on pourra partir en voiture. Bon, ça marche alors. J'ai hâte de partir, c'est un peu difficile, c'est la désolation. Alors, on va partir 15 jours, 3 semaines, le temps que ça se remette un peu au niveau de l'électricité et l'eau. Mais on a envie de revenir aussi chez nous, parce que c'est notre pays et qu'on ne veut pas le laisser s'abandonner.
Est-ce qu'on peut prendre le char?
Oui, dans une cage.
Ariane et son beau-père sont soulagés, mais ont le cœur serré.
On peut partir avec le bus dans une dizaine de minutes à peu près. Donc, on est déjà content de retrouver la terre ferme, du réseau, de l'eau, une bonne douche.
Oui, hein, déjà, c'est déjà pas mal.
Envie, c'est
voilà. Oh, le pays, 72 ans, j'ai jamais vu ça. On s'est dit, plus cher, les gens, ils ont construit quelque chose. Et là, la tour de l'Europe. Oh, merci tous les services qui nous ont aidés. Plus cher, qui prennent des risques pour nous, hein, surtout ça.
Ils partent, mais promettent de revenir pour rebâtir leur village.
Le chef de l'État devrait se rendre sur place en milieu de semaine. Le bilan des inondations est passé à 4 morts côté français, un bilan qui devrait encore s'alourdir puisque 8 personnes ont été vues emportées par les flots et 13 autres n'ont pas donné de nouvelles. Le secrétaire général de l'OTAN appelle au cessez-le-feu au Karabakh. La Turquie, elle, soutient toujours l'Azerbaïdjan et exige le retrait des forces arméniennes de la région séparatiste. La journée a été marquée par de nouveaux affrontements avec des frappes sur les zones urbaines. Les belligérants continuent de s'accuser mutuellement de viser délibérément les civils. Mais ce conflit déborde aussi de sa zone géographique et Israël se retrouve impliqué. L'ambassadeur d'Arménie en Israël a été rappelé. Pour quelle raison, Frédéric Mettezo?
Eh bien Aurélie, parce qu'Israël soutient l'un des deux protagonistes dans ce qui ressemble à première vue à un front renversé, mais pas tant que ça. Explication, la Russie soutient l'Arménie et la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Israël a de bonnes relations avec Moscou et exécrable avec Ankara, mais Israël soutient l'Azerbaïdjan aux côtés de la Turquie. Il y a comme explication des raisons économiques évidentes. Israël achète 40% de son pétrole à l'Azerbaïdjan et vend des armes à ce pays. Un contrat cadre a été signé en 2016 pour environ 5 milliards d'euros, notamment pour des drones et des missiles israéliens utilisés en ce moment au Karabakh. Il faut aussi savoir que l'Azerbaïdjan, pays majoritairement chiite mais laïque, a des relations tendues avec l'Iran. Et l'Iran, c'est la matrice de la politique israélienne d'Israël sous Netanyahou. L'Azerbaïdjan est très aligné sur les États-Unis de Donald Trump et inquiet de l'expansionnisme iranien et donc ça le rapproche des positions israéliennes. En miroir, l'Arménie a de bonnes relations avec l'Iran frontalière qui est son seul débouché vers le monde extérieur. Tout devient donc plus lisible si l'on regarde la position de chacun par rapport à Téhéran. L'Arménie a rappelé son ambassadeur en poste à Tel Aviv alors que l'ambassade a été inaugurée il y a seulement 18 jours, alors même qu'Israël n'a jamais reconnu le génocide des Arméniens par les Turcs. Les relations toutes fraîches entre Israël et l'Arménie sont déjà gelées.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end. La libération de ces djihadistes intervient alors que le Mali est passé sous une nouvelle autorité avec le coup d'état militaire qui a renversé le président Keïta le 18 août. En échange, les djihadistes pourraient eux aussi faire un geste, notamment en libérant deux otages, le chef de l'opposition malienne et la française Sophie Pétronin, Nathanaël Charbonnier.
L'affaire est très sensible et il faut rester particulièrement prudent sur l'annonce d'une éventuelle libération d'otages détenus par les groupes d'Al-Qaïda. Mais ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on a du mal à imaginer que la libération de plus de 100 djihadistes se fasse sans contrepartie. Ils sont sortis des prisons maliennes durant tout le week-end et certaines sources expliquent que cette libération à grande échelle devrait permettre la libération de Sophie Pétronin et de Soumaïla Cissé. Pour mémoire, la Française a été enlevée en 2016 dans la région de Gao, dans le nord du pays, alors qu'elle s'occupait avec son ONG d'orphelins. Soumaïla Cissé, lui, principal opposant malien, trois fois candidat à l'élection présidentielle, a disparu le 25 mars dernier dans le centre du pays, alors qu'il menait campagne pour les élections législatives. S'il est trop tôt pour connaître le dénouement de cette affaire, une chose est en tout cas certaine, c'est l'arrivée au pouvoir de l'armée qui a changé la donne, cette dernière ayant fait de la libération du leader politique une priorité pour la suite de la transition politique.
Après trois nuits passées à l'hôpital, Donald Trump semblait plus en forme aujourd'hui. Le président américain a envoyé une salve de tweets dès le réveil, montrant qu'il restait en campagne à maintenant moins d'un mois de l'élection. Il était question qu'il sorte aujourd'hui et continue de suivre son traitement à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Grégory Phillips ?
Alors écoutez, la décision d'une éventuelle sortie de l'hôpital n'a pas encore été prise. Elle devrait l'être dans l'après-midi, c'est-à-dire ce soir pour vous. Tout à l'heure, invité de la chaîne Fox News, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, se disait optimiste. Et au moment où on se parle, on n'a pas encore eu aujourd'hui de nouveau bulletin médical concernant la santé du président. On sait que lui, en tout cas, pousse pour retrouver au plus vite le terrain. Il ne faut pas oublier qu'on est à 29 jours de la présidentielle. Donald Trump, vous l'avez dit, de nouveau très actif sur Twitter et dans une vidéo publiée hier soir, il dit qu'il veut revenir très vite. Même s'il quittait l'hôpital Walter Reed aujourd'hui, ce serait de toute façon pour être en quarantaine à la Maison Blanche, où il continuera de recevoir ses différents traitements. La Maison Blanche qui, de plus en plus, apparaît comme un foyer de contamination. Ce soir, on apprend que, à son tour, la porte-parole Kayleigh McEnany a été testée positive ce lundi matin. Au total, on dénombre désormais 28 personnes malades à la Maison Blanche ou dans l'équipe de campagne du président. Deux environnements où, clairement, ces dernières semaines, les consignes de distanciation physique ou de port du masque n'était pas respecté. On l'a vu lors de réceptions de cérémonies organisées dans les jardins ou à l'intérieur de la Maison Blanche ou lors du premier débat de la présidentielle la semaine dernière à Cleveland.
Grégory Phillips en direct de Washington. Le prix Nobel de médecine récompense trois découvreurs du virus de l'hépatite C, le Britannique Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice. Une récompense accueillie avec enthousiasme à l'INSERM de Tours où des Français tentent de mettre au point un vaccin contre l'hépatite C. Le professeur Philippe Roingard a dédié sa carrière à ce projet. Il dirige le laboratoire INSERM à l'université de Tours.
C'est quand même un virus qui reste un problème de santé publique important. Près de 80 millions de personnes qui sont porteurs chroniques de ce virus, voyez, et beaucoup qui ignorent qu'ils le sont. Parce que c'est un virus qui infecte de façon silencieuse pendant longtemps avant que surviennent des problèmes du foie. Si le traitement est pris trop tard, si les patients sont déjà à l'état de cirrhose, eh bien, le processus de dégradation du foie va continuer et c'est des patients qui vont évoluer vers un cancer du foie. Un pays comme le Pakistan, il y a 10 millions de porteurs chroniques, si vous voulez, ils ne sont pas dépistés. Il y en a pratiquement autant en Chine. Enfin, ce sont des gens qui vivent avec le virus, qui continuent à le transmettre. Ça se transmet par le sang, surtout par des pratiques médicales mal sécurisées. Il y a un petit peu de transmission sexuelle aussi, même si elle est faible.
On a, je crois, 400 000 décès chaque année. C'est énorme.
Oui, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est tous les ans. C'est pas comme le coronavirus. Effectivement, c'est tous les ans. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est justement de mettre au point un vaccin. Mais il faut reconnaître aussi que grâce à ces chercheurs et tout le travail qui a été accompli, on a pu mettre au point des molécules qui permettent de traiter cette maladie. Voilà, et on a à cœur de poursuivre ce combat avec un vaccin qui serait un vaccin combiné, associant à la fois une protection contre l'hépatite B et contre l'hépatite C.
Le virologue Philippe Roingard, joint par Cécilia Arbona. La météo demain sera dominée par les passages pluvieux. Les températures afficheront le matin 5 à 15 degrés. L'après-midi, il fera de 13 à 17 sur la moitié nord, 17 à 23 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.